France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Je suis chef de cuisine événementielle, ça fait 16 ans. Et 16 ans, j'ai vu que les choses se dégrader. À aucun moment, je n'ai vu quelque chose s'améliorer.
On dit que tous les jours, il y a un agriculteur qui se suicide en France. Et ben, il ne faudrait pas qu'il arrive que tous les jours, un maître d'hôtel ou un cuisinier ou quelqu'un qui travaille dans l'événementiel, parce qu'il arrive au bout, parce qu'il n'en peut plus, décide d'en finir. Ça va être dramatique.
Vraiment, l'État et par l'entremise de son ministère de la Culture se désintéressent. La situation financière des plus précaires, ça fait un bail, mais là on a atteint ce qu'on croit être un paroxysme. J'ai l'impression qu'on va continuer à foncer dans le mur.
Jamais Pôle emploi n'avait compté autant d'inscrits, 6 125 400 personnes, un chiffre record qui devrait encore augmenter dans les mois à venir. La situation s'améliore en mai. Dans la catégorie A, la baisse est de plus de 3% par rapport à avril, mais avec 4,42 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité, le niveau du chômage reste extrêmement élevé sous le coup de la récession entraînée par l'épidémie de Covid-19. Et malgré cette embellie perceptible depuis la levée du confinement, avec une reprise des missions d'intérim et des contrats courts, un retour à la normale semble illusoire à court terme. L'aéronautique, le tourisme, l'industrie du loisir, l'événementiel, de nombreux secteurs sont ébranlés. Des entreprises ont accumulé des dettes et ont des perspectives d'activité dégradées. Malgré les dispositifs mis en place par le gouvernement, faillites et licenciements sont inéluctables. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'attend à quelque 800 000 suppressions d'emplois dans les mois à venir. Une estimation très incertaine tant le contexte est inédit. Pour ceux qui se trouvent dans une situation précaire, en fin de contrat ou déjà sans emploi, cette période est donc source de très grande inquiétude. Coronavirus, les chômeurs en souffrance, c'est un reportage signé Sophie Delpont. Invité de ce grand reportage, Jean-Louis Walter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le médiateur national de Pôle emploi depuis maintenant 10 ans. On peut peut-être préciser que vous ne travaillez pas seul. À Pôle emploi, il y a une équipe de médiateurs.
Exactement, et je vous remercie de nous donner la parole et de permettre de vous expliquer en deux mots tout simplement ce qu'est la médiation à Pôle emploi. C'est des médiateurs régionaux avec des chargés d'appui à la médiation qui ont pour mission de recevoir des réclamations qui n'ont pas abouti ou qui font conflit à Pôle emploi et de trouver des solutions. C'est un peu une mission de fluidifier les relations, de faire en sorte que les demandeurs d'emploi en particulier, parce que les entreprises réclament pas spécialement et pas beaucoup, et Pôle emploi, on retrouve le dialogue après des périodes parfois un peu compliquées, un peu difficiles. Et vous doutez bien qu'en ce moment, nous sommes plutôt en première ligne par rapport à toutes les difficultés d'explication et de compréhension, mais on y reviendra peut-être, d'une réglementation parfois très compliquée.
Tout à fait. Merci Jean-Louis Walter. On vous retrouve après le reportage de Sophie Delpont. Sophie, vous avez rencontré des chômeurs et des personnes en emploi précaire pendant ou après le confinement?
Oui, nous avons rencontré des chômeurs de tous les âges, de plusieurs secteurs. Ils ont la trentaine ou bien la cinquantaine. Leurs perspectives sont pour l'instant suspendues. Comment le coronavirus a-t-il bouleversé leur vie? Le stress dû à la recherche d'un emploi, alors que certains pans entiers de l'économie ont de grandes difficultés à redémarrer. De Noisy-le-Sec en banlieue parisienne à Aigues-Mortes dans le Gare ou bien à Paris, nous avons dressé les portraits de ces chômeurs de l'après-confinement.
Et vous étiez mercredi, place de l'Hôtel de Ville à Paris, où un millier de cuisiniers et maîtres d'hôtel de l'événementiel étaient rassemblés pour demander l'aide de l'État.
Qu'est-ce qu'il y a marqué sur vos pancartes?
Il y a marqué ceci: nous sommes fiers de vous servir, soyez fiers de nous aider. Et le gouvernement, Monsieur Macron, ne nous aide absolument pas. Mais vraiment pas du tout. Par contre, une société comme Air France, comme Renault, à qui on donne au total 12 milliards d'euros et qui va licencier près de 15 000 personnes, pardonnez-moi l'expression, c'est se foutre de notre gueule. Voilà, c'est tout.
Et vous, bonjour. Qu'est-ce que vous avez sur votre pancarte ?
Nous vous avons servi avec fierté, nous récoltons la précarité. Voilà. Ce qui est le cas tous les jours. Là, on est en fin de droit, on n'a plus rien. Et puis, moi, j'ai 4 enfants et là, j'ai rien pour les nourrir. Voilà. Donc, je suis là et ça devient vraiment triste. Faut pas dire autre chose. Vu la colère que j'ai, je pense que... Voilà.
Vous êtes habillé tout en noir aujourd'hui.
Ouais, on est en deuil. On n'a pas le choix. Franchement, ça représente ce qu'on a aujourd'hui, rien. Voilà. Alors, moi, je suis de la région parisienne. Je m'appelle Louis. j'ai 50 ans. Et dans 10 ans, eh ben, déjà aujourd'hui, si je veux une embauche, je ne vaux plus rien déjà au niveau du marché de l'emploi. Donc, je ne peux même pas changer de statut parce qu'aujourd'hui, au niveau du marché de l'emploi, avant le Covid, j'avais déjà fait des recherches d'embauche et on m'a dit « Monsieur, vous êtes trop vieux ». Voilà. Et malgré toute l'expérience que j'ai, je suis quand même pâtissier, hein. Pâtissier, cuisinier, je suis diplômé, j'ai de l'expérience dans ces deux jobs et je suis trop vieux, on ne veut pas de moi. Voilà. Je suis chef de cuisine, ça fait plus de 30 ans que j'exerce ce métier, mais là, en tant que chef de cuisine événementiel, ça fait 16 ans. Et 16 ans, j'ai vu que les choses se dégrader. À aucun moment, je n'ai vu quelque chose s'améliorer. Et là, aujourd'hui, on n'a plus rien. Voilà.
Vous êtes arrivé en fin de droit avant le confinement ?
Bien avant, mais bien sûr. Et donc là, aujourd'hui, bah, maintenant, j'ai 4 enfants et puis bah, je vis actuellement... sur le peu d'argent que j'avais économisé en cas de pépin, qui n'était pas grand-chose, hein, bien évidemment, sauf que là, bah, je suis obligé de faire appel à ma famille, en l'occurrence à mes parents, et pour pouvoir essayer de nourrir mes enfants. Voilà.
Là, si je vous disais que le médiateur de Pôle emploi vous entend, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Ça serait bien qu'il nous entende réellement, car on n'a plus rien, et ça serait bien si on faisait une année blanche, ça serait super. Ça nous permettra à nous de nous renflouer et surtout de pouvoir voir l'avenir, enfin la lumière pour l'avenir. Aujourd'hui, on ne voit rien, on est en noir. Normalement, cette période-là, on a énormément de travail et c'est là où on peut voir venir après pour septembre, octobre. Et là, aujourd'hui, bah, on n'a rien. Donc automatiquement, bah, il n'y a plus de sous.
Vincent, j'ai 53 ans, ça fait 30 ans que je travaille dans ce métier. Je suis diplômé comme mon collègue, BEP, CAP.
Vous aussi,
chef oui, tout à fait. Ça fait une dizaine d'années que je travaille dans l'événementiel. Pour la petite anecdote, je serais logiquement, si la législation n'avait pas changé, à savoir 37 ans et demi de cotisation, je devrais être à 2 ans et demi, 3 ans et demi de la retraite. J'en ai encore 12 à faire. Vous imaginez à 64 ans... travailler dans une cuisine, la chaleur, les petits pas, les poids, c'est plus du tout de mon âge, ce ne sera plus de mon âge. Et bien ces gens-là, les envoie à la casse. Il paraît-il que le mépris, le silence est le meilleur des mépris. Ben, je pense que le gouvernement aujourd'hui, ouais, effectivement, nous affiche le plus malsain des mépris, parce que ça peut que très mal se terminer.
Et là, le médiateur national de Pôle emploi, Jean-Louis Walter, si vous pouvez vous entendre, qu'est-ce que vous lui diriez ? Est-ce que vous l'avez contacté ?
Oui, beaucoup de gens les ont contactés, ils n'ont aucune information. Je le répète, c'est le silence méprisable et méprisant de la part des gens qui nous dirigent. Quoi. C'est lamentable. C'est lamentable. Que la limite, il faudrait peut-être taper un petit peu du poing sur la table, de façon gentille quand même, mais de faire entendre notre voix, parce que nous allons vers une véritable catastrophe sociale dans notre métier, pour ne pas dire un génocide social, parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas le supporter, qui ne pourront plus le supporter. On dit que tous les jours, il y a un agriculteur qui se suicide en France, et ben, il ne faudrait pas qu'il arrive que tous les jours, un maître d'hôtel ou un cuisinier ou quelqu'un qui travaille dans l'événementiel, parce qu'il arrive au bout, parce qu'il n'en peut plus, décide d'en finir. Ça va être dramatique. Ça, ce sera dramatique. Parce qu'il y en aura, malheureusement. Malheureusement, il y en aura.
Vous trouvez qu'il y a quand même parfois deux poids, deux mesures dans l'indemnisation des chômeurs en France, par rapport notamment à cette crise du Covid ?
Oui, il y a deux poids, deux mesures. Il y a un petit exemple qui est assez frappant. Il y a des sportifs, des footballeurs, par exemple, qui ont été payés en complément de salaire à hauteur de 4 fois le SMIC, quand d'autres qui touchent le SMIC, mais eux, n'ont plus rien. Donc effectivement, ça interpelle dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs ou de précaires, payer des milliardaires à rien faire, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas assouvir leur passion, jouer, faire leur métier. Ben, nous aussi, on ne peut pas faire notre métier, mais nous, on n'a rien. Donc effectivement, deux poids, deux mesures. Notre métier, c'est de faire plaisir, de voir les gens avoir une émotion dans les yeux quand ils goûtent quelque chose, dire c'est bon, d'avoir un sourire, ça c'est... C'est une autre partie d'un salaire.
Même la mairie sonne le glas pour nous.
Vous voyez, même les cloches de la mairie sonnent le glas pour nous, pour notre métier.
Sur l'immense place de l'Hôtel de Ville à Paris, au milieu des pancartes, une grande photo d'Emmanuel Macron. Un selfie où on voit le président de la République au milieu de trois extras, maîtres d'hôtel et cuisiniers événementiels, large sourire sur les visages.
Stéphane désigne la photo.
Je pense que celle-là, elle est vraiment significative parce qu'en fait, on voit le président de la République qui se prend en photo avec des maîtres d'hôtel de l'événementiel. Et là, on est abandonné, quoi. C'est vraiment une image qui résume tout, en fait. Parce qu'il a dû passer un moment très agréable. Hein. Et ça résume la situation, c'est qu'aujourd'hui, il y a 40 maîtres d'hôtel qui étaient encore à l'Elysée lundi. Et là, vous voyez, il y a 1000 maîtres d'hôtel qui sont dans une précarité totale. Voilà.
Donc bonjour, moi je m'appelle François Choux, responsable maître d'hôtel depuis 20 ans dans l'événementiel.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là ?
Donc aujourd'hui, après avoir fait un tapage médiatique de plus de 2 mois sur tout le territoire français, nous sommes toujours dans l'attente, désespérés d'avoir un contact rapide pour pouvoir entrer en négociation directement avec les hommes politiques du moment, hommes ou femmes politiques d'ailleurs. Et aujourd'hui, toute la profession s'est mobilisée. Des gens sont venus de toute la France pour pouvoir venir aujourd'hui porter le mouvement pour avoir une chance de pouvoir survivre à l'été. Donc nous sommes entre 15 et 20 000 extras sur anciennement intermittents de la restauration sur tout le territoire qui sont en train de travailler à l'Elysée, à Matignon, qui s'occupent de tous les mariages de tous les Français. Les extras sont donc des maîtres d'hôtel ou des cuisiniers dans l'événementiel. C'est vraiment c'est poignant, c'est d'entendre chaque jour des gens qui m'appellent pour me dire qu'ils sont en train de mourir. Les extras sont en train de lâcher leurs appartements, en train de vendre leur maison pour aller vivre chez leurs parents. C'est quelque chose d'inimaginable. Et aujourd'hui, j'ai une profonde tristesse que personne du gouvernement n'ait un peu de courage et un peu de fierté pour venir nous appeler et nous proposer d'au moins discuter. J'ai du mal à percevoir. On est clairement les grands oubliés. Et je reprends encore, 40 de mes collègues étaient encore à l'Elysée lundi. Donc là où nous sommes mercredi, non, il y a donc 48 heures. Donc que fait Monsieur le Président ? Ne se rend-il pas compte que c'est des extras qui le servent du 1er janvier au 31 décembre ? Qui le servira ? Qui servira la présidence après-demain, si nous ne sommes plus là ? On a décidé de ne pas aller bloquer l'Elysée parce que nous sommes un secteur d'activité de gentleman, clairement. Donc on va garder notre ligne directrice du moment. Mais c'est vrai que là, on commence à s'essouffler. Et forcément, bah moins on mange et bah moins on a d'énergie pour pouvoir essayer de se défendre. Et là, aujourd'hui, c'est dramatique.
Le monde de la culture aussi est touché au cœur par la crise du coronavirus. Nous allons maintenant dans le 10e arrondissement de Paris, quartier des théâtres.
Benoît Félix Lombard, 39 ans. En ce qui concerne le moment présent, responsable de l'accueil et chef de salle de la Scala à Paris. C'est un théâtre privé d'intérêt public. C'est une petite masse salariale, hein, la Scala à Paris, ça reste une boîte privée. Il y a mon bureau, là, juste à gauche, avec le bureau de la billetterie. Et là, on a l'entrée des artistes qu'on va emprunter. Droite, on a un accès aux coulisses et aux dessous de scène qui va se transformer progressivement, mais je peux pas trop en parler pour l'instant. On va monter les escaliers, on va atteindre la salle et petite exclusivité, rien que pour vous, François Morel est en train de répéter un futur spectacle, mais ça reste entre nous.
Si ma peur m'a envoyé, mon cœur enfin est arrivé.
Bah évidemment, tout est fermé, donc c'est un peu triste. Et personne ne viendra ce soir.
On peut s'asseoir sur le banc là, ça vous va ?
Je suis en contrat CDI ici, et depuis le 13 mars en chômage partiel. Ce que je fais de mes journées, ça a été le combat de ces derniers mois. Apprivoiser le temps, et c'est vertigineux. Et puis au fur et à mesure, on commence à reprendre un peu le contrôle sur certaines choses. Et globalement, on trouve du temps, finalement. Et puis on essaie de se recentrer parce que pour le coup, dans ma famille artistique, beaucoup ont rencontré le même problème que moi. C'est une espèce de crise existentielle liée à l'idée de « est-ce que je ne serais pas en train de faire depuis quelque temps ce que Graeber appelle un « bullshit job ». Et moi, j'ai une formation artistique qui s'est dessinée dans un parcours lié aussi au militantisme. Et ça a été très frustrant parce que j'ai toujours cru que la culture et le théâtre en particulier pouvaient sauver le monde. Et manifestement, non.
Par rapport à la situation où on est aujourd'hui, c'est-à-dire là, on espère des réouvertures de théâtre, comment ça va se passer pour vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que même au niveau de votre rémunération, on va repasser à un salaire plein? Est-ce que vous avez des projets aussi d'acteurs, mettre en scène peut-être une pièce aussi?
Oui. Alors, en termes de salaire, je pense que oui. C'est difficile à dire pour l'instant parce que de ce que j'ai su, pour l'instant, l'État tient pas ses promesses pour tout le monde. Mais oui, a priori, de toute façon, la Scala a décidé de relancer la machine et l'a relancée très forte avec de grosses ambitions. Les projets, il y en a toujours. Hein. C'est jamais ce qui manque, c'est la possibilité de les réaliser, de les rendre visibles. Et ça, en termes de production, oui, je pense que ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais il faut prendre ça comme un appel du pied à justement explorer des nouvelles façons de faire, des nouveaux standards économiques. De toute façon, je pense que la grande majorité des acteurs du spectacle vivant savent à peu près qu'on nous demande souvent de travailler gratuitement. Ça fait un bail quand même que les répétitions sont plus payées, par exemple, même pour des structures de type CDN, etc., Centres Dramatiques Nationaux. Non, pour dire que vraiment l'État et par l'entremise de son ministère de la Culture se désintéresse. La situation financière des plus précaires, ça fait un bail, mais là on a atteint ce qu'on croit être un paroxysme. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais j'ai l'impression qu'on va continuer à foncer dans le mur.
Le secteur de la culture, à l'arrêt presque total pendant le confinement, reprend peu à peu des activités. Nous partons à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, rencontrer Édouard, jeune entrepreneur, qui installe des décors en tout genre.
Là, on est sur le parking d'une société de production de décors de spectacle, essentiellement. Là, c'est l'entrée de l'atelier de menuiserie. C'est un bâtiment qui est constitué de deux entreprises. Il y a une partie pour la menuiserie bois et une partie pour tout ce qui est construction métallique, acier. Et à l'étage, il y a un autre atelier qui est plus pour tout ce qui est électronique et robotique. Alors, moi, je m'appelle Édouard Franqueville. Donc, je suis, on va dire, socleur, constructeur de décors. J'ai 35 ans. Je fais tout ce qui est lié à la scénographie depuis une dizaine d'années, après avoir fini mes études aux Beaux-Arts à Paris. Alors, la scénographie, c'est très large. En fait, c'est tout ce qui est constitutif des décors, soit d'exposition, soit de spectacles d'art vivant, des événements. Ça arrive qu'on soit appelé sur des décors de boutiques, de commerce. Voilà. Donc on fait des vitrines pour des marques de luxe essentiellement sur Paris et en province.
Donc vous êtes chef de votre entreprise ?
Alors moi je suis chef de mon entreprise, mais je suis sous-traitant pour plusieurs boîtes plus grosses. Donc je suis principalement appelé en fait en renfort sur des chantiers ponctuels.
Alors on va rentrer dans l'entrepôt.
On va rentrer par là plutôt.
La porte de gauche.
On va rentrer par la porte de gauche, c'est l'atelier métal, c'est là où moi je travaille principalement. Alors là on est donc au milieu de l'atelier métal, donc on a tout ce qui est rangement de matières premières. On a des outils, on a une perceuse à colonne, une scie à ruban, des postes à souder. Ça remplace une table de travail quoi. Normalement, à cette période de l'année, on devrait être en production, c'est-à-dire qu'on devrait être en train de produire la totalité des vitrines. Et là, c'est encore les prototypes, donc il n'y a rien d'arrêté. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de personnes que d'habitude. D'habitude, l'atelier est rempli et les gens courent. Et là, je vois 5-6 personnes, d'habitude, il y a jusqu'à 15-20 personnes ici. Il y a 1500 mètres carrés, alors il y a aussi une mezzanine aussi à l'étage, il y a les bureaux au-dessus. Des tuyaux d'air comprimé qui pendent du toit, et puis il y a des prises un peu partout. Pas assez de prises, mais quelques prises qui pendent quand même aussi. Là-bas, il y a une machine à commande numérique pour les découpes qui sont faites par ordinateur. Il y a une toupie, il y a une scie à panneaux et une scie radiale, des ponceuses, et tout ça est branché sur l'aspiration qui vient d'être installée. Voilà. C'est la salle de repos, c'est là où on prend nos repas Voilà, pareil, normalement, bon, c'est occupé qu'aux heures de pause et pendant les heures de repas. Mais normalement, ici, on est entre 15 et 20. Et là, ce midi, on était 5. Donc, c'est très différent, quoi. C'est beaucoup plus calme que d'habitude.
On peut s'asseoir ?
Bien sûr, oui.
Là, quelle est votre situation à vous ? Comment ça se passe, là, par rapport à ce que vous avez vécu, le confinement,
ouais.
Votre entreprise, comment elle se porte aujourd'hui ?
Alors, moi, j'ai un cas un peu spécifique. C'est-à-dire que j'ai une toute petite entreprise, j'ai pas de salariés. Et en fait, mes revenus viennent d'une activité d'intermittent, qui est mon activité principale. C'est-à-dire que j'ai une entreprise... en fait, les deux statuts se chevauchent parce que j'ai commencé l'intermittence et je voudrais donc quitter le statut d'intermittent pour vivre essentiellement de l'activité de ma société. Donc, pour passer de l'un à l'autre, j'ai pas coupé tout d'un coup. Donc, j'ai encore mes revenus d'intermittent. Je fais encore des piges d'intermittent. Et donc, j'ai encore ce petit chômage qui me permet d'avoir des revenus lissés, on va dire, sur l'année. Concernant, par contre, tout ce qui est l'activité de ma société, là, c'est beaucoup plus difficile, en fait. Depuis le 16 mars, donc, en fait, j'ai absolument pas travaillé du tout. Donc, j'ai eu zéro rentrée et j'avais quand même, évidemment, comme toutes les entreprises, les charges qui partaient tous les mois. Dans ma situation, ce sont pas des charges non plus énormes. Comme je vous disais, j'ai pas de salariés. J'ai un petit loyer d'atelier de 300 euros par mois. C'est une surface de 30 mètres carrés, donc c'est vraiment plus un stockage qu'autre chose. Voilà. Par contre, ce qui est embêtant, c'est quand les chantiers ont été arrêtés, que la matière a été payée avant et qu'on se retrouve avec des chantiers qui, en fait, comme je suis dans l'événementiel, si vous voulez, si les événements n'ont pas lieu, tout simplement, on se retrouve avec de la matière qu'on a payée qu'on peut plus vendre. Et comme on ne fait pas deux projets identiques, ce qui est un peu aussi l'attrait de ce métier, c'est qu'on ne fait pas deux fois la même chose, on a forcément, là moi j'ai de la matière sur les bras que j'ai payée. Donc voilà, je suis sur un manque à gagner d'environ 10 000 euros à peu près, sachant qu'il y a 4 500 euros de matière, et à ça s'ajoute le travail que je n'ai pas pu faire, quoi. Donc pour une petite société comme la mienne, bah, ce n'est pas très compliqué, c'est... 5000 euros de ma poche et 5000 euros qui sont pour l'instant pris en charge par un PGE, le prêt garanti par l'État. Donc ça, je l'ai eu sans problème aussi. En fait, j'ai appelé ma banque, ils ont vraiment été très très rapides. J'ai pas eu un dossier non plus monstrueux à faire. Ce qui m'inquiète un petit peu d'ailleurs, c'est que en fait, l'organisme bancaire là que j'ai appelé, enfin, je leur ai expliqué que j'étais pas sûr de pouvoir rembourser ce prêt, tout simplement parce que à court terme, ça allait me permettre de pouvoir maintenir mon entreprise, mais que à l'horizon de septembre-octobre 2020, j'étais pas sûr de pouvoir continuer. Ils m'ont dit, de toute façon, monsieur, vous n'êtes pas le seul, et c'est garanti par l'État, à 90%. Donc nous, on viendra pas vous courir après pour les 10% de la somme. Il m'a un peu sous-entendu qu'il s'attendait, lui, à ce que la majorité de ses prêts ne soient pas remboursés, vu qu'il y a beaucoup de faillites. Et que donc, en fait, ils s'asserraient sur leurs 10%, mais que le fait que l'État garantisse 90%, c'était quand même pour eux une garantie suffisante.
Donc là, vous êtes sur le point de déposer votre bilan, en fait ?
Alors, pas exactement, parce que là, on se retrouve avant les vacances d'été. Donc là, moi, j'ai une activité qui redémarre. En fait, tout ce qui était à l'arrêt, pas tout, mais on va dire 75% a été maintenu. Alors, le problème maintenant, c'est qu'on a des délais beaucoup trop courts. Donc on se retrouve avec une surcharge de travail assez conséquente. Donc moi, je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir répondre à cette surcharge de travail, sachant que j'ai un enfant, que les vacances arrivent, que je ne me vois pas priver mon enfant de vacances et le garder dans les 20 mètres carrés où on habite avec ma compagne tout l'été, et que de toute façon, il n'en est pas question. Donc s'il faut déposer le bilan en septembre, se reconcentrer sur une activité d'intermittent et éventuellement réouvrir une société quand les choses redémarreront de façon plus régulière, et ben j'attendrai que ça passe, et puis peut-être que en janvier ou en février on pourra reprendre une activité normale sans avoir peur de se demander où vont les clients, qu'est-ce qui se passe, comment je vais payer telle matière, voilà.
Et là, comment vous faites pour vivre? Vous avez donc des revenus
oui,
de l'intermittence.
Voilà.
Et puis vous avez votre compagne qui travaille, et du coup vous sortez à deux comme ça, tant bien que mal.
Voilà, alors ma compagne, elle a un prêt immobilier à rembourser. Moi, j'ai donc, comme je ne travaille plus en intermittence, vu que tous les lieux publics sont fermés, depuis deux mois, j'ai mon allocation.
Qui est de combien ?
Qui est de 1450 euros par mois. En comparaison, le chiffre d'affaires de ma société, c'est entre 5 et 6 000 euros par mois. c'est-à-dire un équivalent sur un salaire de 3000 euros. Donc ça fait un vrai manque, surtout que là, dans les premières années de ma société, j'avais pour objectif de m'équiper, donc j'ai pu commencer à le faire, et ça a mis un sacré coup d'arrêt à ces investissements, en fait. Donc il y a un manque à gagner financier, il y a aussi un problème d'organisation avec la période qui arrive avec les mois de juillet et août.
Et cette période-là que vous avez traversée, que vous êtes en train de, là, encore de traverser, une autre période, ça, vous la vivez comment ?
Bah, moi, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas été personnellement touché de près ou de loin par la maladie. Donc, sincèrement, j'ai pas à me plaindre, en fait. Si c'est juste des problèmes financiers, si c'est juste des problèmes d'organisation de vacances, je veux dire, il y a des gens qui sont passés à travers des choses bien plus graves. Bon, bah, on va attendre que les choses se passent, on va s'organiser différemment. Et puis, de toute façon, je vois pas comment on pourrait ne pas en sortir, en fait. Donc, même s'il y avait cette deuxième vague qui arrivait, je sais qu'ici, toutes les mesures sont tombées il y a à peu près une semaine. Avant, c'était masque obligatoire, on se désinfectait les mains au moins une fois par heure. C'était très, très suivi. Je sais que dans les lieux où on travaille, ça l'est moins. Ici, là, dans cette société, ça l'est moins. Moi, je travaille tout seul, donc les gestes barrières, je n'ai pas à les faire avec personne. En tout cas, ça a l'air d'aller mieux. Ça a l'air d'aller mieux.
Est-ce que vous demandez ou demanderiez quelque chose, un geste de l'État ou des aides ?
Bah, dans mon cas, moi, j'ai eu des aides. Évidemment, ça ne remplace pas un vrai chiffre d'affaires, mais 1500 euros par mois multiplié par le nombre de sociétés qui l'ont demandé, plus les chômages partiels, je trouve que ce qui a été fait a été quand même... En tout cas, dans mon cas, ça a été suffisant et ça m'a permis de compenser pas mal de choses. Là où je suis plus dubitatif, c'est sur le PGE, en fait, sur le prêt garanti. Lancer un prêt garanti quand on suspecte qu'il y aura beaucoup de faillites, je ne sais pas comment l'interpréter, en fait. Je ne sais pas comment l'interpréter. On s'attend à ce que les gens remboursent, mais on ne sait pas comment ils vont le faire. Et personne ne le sait, donc je pense qu'à un moment donné, l'État a dit peut-être qu'il ne pouvait pas le faire tout seul. Et après, tout ça, en fait, c'est l'argent de tout le monde, en fait. Donc, l'argent de l'État, c'est l'argent des impôts, c'est l'argent de tout le monde. L'argent des assurances, c'est l'argent des gens qui cotisent. L'argent des banques, c'est l'argent des gens qui mettent de l'argent dessus. Sauf, apparemment, j'aurais appris qu'il y avait une économie réelle et une économie qui n'était pas réelle. Bon, il y a des choses comme ça qui apparaissent dans ces situations où on se rend compte que bah, ce qui relève de la réalité de tout le monde, en fait, n'est pas, comment dire, lié avec toutes les mesures qui sont prises forcément, quoi. Donc il y a ce fossé entre des mesures qui nous sont annoncées, qui sont des mesures financières avec des chiffres qui veulent rien dire pour personne. On a l'impression que c'est juste une façon de nous dire bon bah, ce qui a été dit d'ailleurs par le président l'autre jour, c'est que bon bah maintenant il va falloir y aller, quoi. Et puis vous allez pas regarder comment où on va, mais il va falloir y aller. Donc c'est un peu compliqué de savoir. Donc moi, je ne suis pas spécialement revendicatif, je ne suis pas engagé politiquement, je suis un peu dépassé par tous ces trucs-là. Je sais quand on me prend pour un idiot, je sais quand on me propose des choses qui ne sont pas tenables, je sais quand... Enfin, j'imagine que je devine un peu quand on me ment. Là, on patauge complètement, donc je vais m'occuper de ma situation, je vais m'occuper de ma famille. Je vais faire ce que je sais faire, du mieux que je peux, comme toujours, et puis on verra si ça suffit. Si ça suffit pas, eh ben, on ira cultiver des légumes à la campagne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, c'est tout. I'm a bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough. I'm a real boss. Big Snoop Dogg. Yeah, he's so sharp.
Retour à Paris pour rencontrer Pascal, ancien cadre supérieur dans la publicité et chômeur de longue durée.
Bonjour, je m'appelle Pascal Baraguet, j'ai 51 ans, je suis publicitaire.
Et donc on sent dans quel endroit là ?
On est chez moi, dans le 2e arrondissement à Paris.
Et aujourd'hui, quelle est votre situation au moment où on se parle ? Vous cherchez un emploi ?
Je cherche un emploi de type salarié et j'effectue également des missions en mode freelance.
Qu'est-ce qui vous est arrivé ces derniers mois ?
En fait, j'ai quitté mon emploi suite à la réforme du code des prud'hommes, entre guillemets, qui était initiée par Emmanuel Macron sous Hollande, puis portée à l'Assemblée après son élection. En fait, la réduction des indemnités prud'homales a permis à pas mal d'entreprises de, entre guillemets, se débarrasser à moindre coût de cadres seniors comme moi, donc un peu plus expérimentés, mais surtout pour un directeur financier un peu plus cher. Donc, en période d'économie ou de crise, donc c'est une réforme politique qui a permis, entre guillemets, d'assainir les comptes des entreprises en se débarrassant d'une partie de la masse salariale. Quoi.
C'est-à-dire que vous aviez un salaire un peu trop important selon votre patron.
Voilà, probablement. Donc il n'avait rien à me reprocher, il n'a pas essayé d'ailleurs de me reprocher quoi que ce soit, mais on s'est mis d'accord sur un départ, comme on dit, négocié, de manière à pouvoir restructurer une équipe et moi poursuivre de nouvelles aventures professionnelles.
Et donc ceci s'est passé quand ?
Ça s'est passé en 2019.
À quel moment ? En fin d'année ?
En début d'année. Enfin, c'était initié en fin d'année. Vous savez, c'est le type de négociation qui est toujours un peu longue. On se regarde, on se teste, on essaie de savoir un peu ce que l'autre a en tête. Donc, ça prend toujours un peu de temps, entre guillemets, et ça s'est conclu au printemps.
Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes au chômage, là ?
Là, ça fait un peu plus d'un an et demi.
Il vous reste combien de temps avec vos droits au chômage avant de ne plus avoir d'indemnité ?
Alors normalement, j'ai, comme tout le monde, 2 ans de chômage, puisque c'est un peu plus tard qu'on a droit à 3 ans. Muriel Pénicaud a évoqué...
La ministre du Travail.
La ministre du Travail a évoqué lors de la mise en place de l'état d'urgence sanitaire que peut-être il y aurait une période blanche pour les demandeurs d'emploi, à savoir que les droits CEDIC pourraient être prolongés. Je crois pas l'avoir entendu s'être exprimé depuis sur ce sujet-là. Donc est-ce qu'ils vont le laisser tomber aux oubliettes ou est-ce que ça reviendra ? On verra. Pour l'instant, c'est vrai qu'ils ont égrené un certain nombre de mesures destinées à soutenir un peu tout le monde, mais ils ne sont pas revenus sur les demandeurs d'emploi.
Et là, au moment où on se parle, vous en êtes où de votre recherche d'emploi ? Est-ce que vous avez des pistes ? Comment ça se passe dans le secteur de la pub dont vous faites partie ?
Alors c'est très compliqué parce que c'est le secteur c'est du conseil aux entreprises. Donc les entreprises sont très affectées dans leur activité. Donc tous les secteurs du conseil sont touchés avec une activité qui est moindre. Et puis un certain nombre de mesures qui sont mises en œuvre pour déjà soit dégraisser hein, avec des licenciements, soit mettre en place du chômage partiel, évidemment. Et puis également, on voit dans un certain nombre d'entreprises la direction qui demande aux hauts salaires de rendre une partie de leur salaire, c'est-à-dire de rendre 10% ou 20% sur un brut annuel, comme une manière de contribuer à une forme d'effort de guerre, entre guillemets. Donc, en clair, il n'y a pas d'embauche, puisque les gens se battent pour ne pas licencier, mais surtout pas pour embaucher. Donc les freelances, c'est gelé, les embauches, c'est également gelé. Et je pense que tout le monde se bat pour essayer de faire en sorte que les pertes d'emploi soient le plus faible possible.
Vous avez envisagé une reconversion professionnelle ? Vous en êtes où, là, de votre cheminement, à vous, dans ces circonstances ?
Alors j'ai plusieurs faire feu entre guillemets. J'ai bien conscience que le monde des agences il est un peu compliqué pour moi aujourd'hui. Donc me reste le monde qu'on appelle dit de l'annonceur, donc des entreprises, de mes anciens clients qui pourraient peut-être être intéressés par un profil comme le mien. J'ai également en tête la possibilité de créer une forme de microstructure et de travailler en indépendant. La reconversion, c'est quelque chose d'un peu particulier. J'ai 50 ans, donc avoir 50 ans et en même temps être un grand débutant suite à une reconversion, c'est peut-être aussi une fausse bonne idée, c'est peut-être cumuler des difficultés. On sait que un certain nombre de conseils vous poussent vers une reconversion. D'abord, ça vous sort des chiffres du chômage, hein, puisque vous êtes en formation. Mais est-ce qu'on apprend vraiment un métier en un an? Je pose la question, ça dépend des métiers, mais on risque aussi de se retrouver à 50 ans avec une formation finalement trop courte, grand débutant, et ça peut être là, j'ai envie de dire, un effet cumulatif de difficultés et on peut s'enfoncer plutôt que sortir la tête de l'eau. Donc il faut réfléchir en fonction de ce qu'on a envie de faire. Pour l'instant, moi j'ai pas de flash ou j'ai pas d'intime conviction ou de voilà sur un avenir qui serait très différent de ce que j'ai fait auparavant.
Donc là, en fait, vous cherchez un travail dans la pub. Vous restez dans ce secteur-là.
Dans la communication au sens large, donc la publicité. Mais aujourd'hui, évidemment, il y a la publicité digitale qui se développe de plus en plus. Voilà, la communication en direction, effectivement, des clients ou des acheteurs, ça voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je sais faire, quoi, globalement.
Et là, aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait une mesure, des choses que vous pourriez demander au ministre du Travail, à Emmanuel Macron, à Édouard Philippe? Est-ce qu'il y a, pour vous, des choses à faire, là, un peu en urgence, pour vous aider, vous, et aider les gens qui sont dans votre situation?
C'est très compliqué dans ce contexte de post-Covid. Ce que j'aurais eu envie de leur dire, c'était de pas réformer le code prud'homal, qui marchait très très bien. Voilà, ils ont fait une réforme soi-disant pour faciliter l'emploi dans les petites entreprises. Malheureusement, ils n'ont pas limité leur loi à l'univers des petites entreprises. Voilà, donc maintenant on est dans une crise de voilà sans précédent entre guillemets, et on n'a pas beaucoup de réflexes et de référents là-dessus. J'ai envie de dire qu'il faut que l'État joue son rôle de protecteur pour les chômeurs de plus de 50 ans, mais comme pour les intermittents du spectacle, comme pour toute une série de gens qui aujourd'hui sont plus vulnérables et qu'il faut faire gaffe, quoi. Faut pas nous laisser sur le bord du chemin, quoi.
Là, vous avez combien par mois de Pôle emploi qui arrive sur votre compte, et vous aviez quel salaire avant?
Alors, j'avais un très bon salaire. Je gagnais aux alentours de 7 à 8 000 euros net, voilà, par mois. Donc voilà, je faisais partie des cadres supérieurs, comme on appelle ça, et probablement des 10% des salariés les mieux payés de France. Donc j'étais pas à plaindre. Et de manière logique, entre guillemets, mes indemnités sont toujours très confortables.
Vous êtes à combien à peu près là?
Je suis à un peu plus de 3 000 euros. Donc on est à...
C'est quand même moins de la moitié de ce que vous aviez avant.
Oui. C'est voilà, il faut adapter. C'est évident qu'il faut adapter son mode de vie, mais je reste extrêmement chanceux. La question c'est pas aujourd'hui comment faire, c'est plutôt demain, parce qu'effectivement 24 mois, ça passe très très vite, surtout quand on a une crise comme celle qu'on a connue en face de nous, qui était précédée par des grèves, etc. On est dans un contexte social qui est compliqué en France, donc ça ne facilite pas l'emploi et l'embauche entre guillemets de gens comme moi, parce que des gens comme moi, on est très expérimentés, mais on est un peu vieux, et donc on peut comprendre qu'une entreprise se dise est-ce que j'ai envie d'investir sur quelqu'un qui va rester 5 à 10 ans, alors que je pourrais peut-être investir sur quelqu'un plus jeune qui restera plus longtemps et qui rapportera davantage à l'entreprise. Je peux comprendre ces questions. Mais du coup, 24 mois, c'est très très court. Le temps de digérer une mauvaise nouvelle qui est un licenciement ou un départ, et de se remettre en selle, et de voilà, ça va très très vite. Donc, si j'avais un message à faire passer, c'est faut-il aujourd'hui rallonger cette période d'indemnisation de chômage de manière à permettre aux gens de se retourner et surtout aux emplois de revenir, parce que chercher un boulot, c'est bien, mais quand il n'y en a pas, il n'y en a pas.
La reconversion professionnelle, c'est l'option que Navina a choisi d'entreprendre. Ancienne journaliste, à 35 ans, elle souhaite devenir développeuse web, mais sa formation qui devait commencer en plein confinement est reportée pour une durée indéterminée. Alors c'est l'attente, avec aussi la problématique de se lancer dans une reconversion professionnelle tout en élevant un petit garçon de 3 ans.
Navina Kalen, 35 ans, demandeur d'emploi. Alors j'habite à Aigues-Mortes, c'est dans le Gard, dans le sud de la France.
Quelle est votre situation aujourd'hui, au moment où on se parle? Où en êtes-vous de votre recherche d'emploi?
Alors actuellement, tout est vraiment mis en pause en raison du coronavirus, de la période de confinement qu'on a connue. Je devais initialement commencer une formation en tant que développeur web le 16 mars. Bien évidemment, elle ne s'est pas tenue en raison du confinement. Elle a ensuite démarré, mais dans d'autres conditions, c'est-à-dire à moitié en présentiel et à moitié à domicile, donc à distance à partir du 18 mai. Malheureusement, j'ai dû abandonner avant même qu'elle reprenne, puisque je suis également mère d'un enfant de 3 ans qui n'était pas encore prioritaire pour retourner à l'école, et où on avait de toute manière fait le choix de pas immédiatement le remettre à l'école en vue du protocole sanitaire qui a été mis en place par le gouvernement et par l'établissement scolaire. Donc je n'avais absolument pas de solution de garde pour notre fils.
Et donc votre formation consiste en quoi, celle que vous allez faire prochainement?
Alors celle que j'envisage de faire, c'est une formation qui consiste à me préparer au métier de développeur web. Donc c'est tout ce qui est développer un site internet, une application en back-end, c'est-à-dire c'est toute la partie que vous ne voyez pas. Alors, c'est une formation, alors ça dépend des organismes de formation, mais en moyenne, elle dure entre 8 et 9 mois et comporte aussi 2 mois de stage. Alors là, j'ai regardé, d'autres formations vont reprendre prochainement, sauf que les dates de reprise ont toutes été décalées, ce qui est tout à fait logique, puisque les élèves qui étaient déjà en centre de formation, qui suivaient déjà cette formation, ont vu leur cursus interrompu par le Covid. Donc forcément, les nouvelles sessions vont démarrer un peu plus tard également. Initialement, je devais reprendre une formation fin octobre. Là, j'ai vu récemment que l'organisme annonçait un début de formation finalement pour début janvier 2021, ce qui rallonge à chaque fois un petit peu le calendrier.
Comment vous faites pour vivre en attendant? Est-ce que vous avez une indemnisation chômage? Est-ce que vous êtes RSA?
Alors, j'ai la chance de bénéficier encore de l'aide ARE, donc c'est l'aide de retour à l'emploi, donc c'est l'indemnisation chômage assez classique. Mon conjoint travaille également, donc c'est vrai qu'on n'est pas, de ce point de vue-là, on n'est pas les plus à plaindre, et puis il nous reste aussi des épargnes toujours, en attendant de trouver des solutions plus pérennes.
Et votre aide que vous recevez, elle s'élève à combien ?
Elle est actuellement aux alentours de 1400 euros. J'attends de savoir à combien va s'élever ma nouvelle aide, parce que je suis en train d'épuiser d'anciens droits de mes précédents emplois. Sauf que avant de me retrouver au chômage, j'occupais un poste en CDD. Mes nouveaux droits n'ont pas encore pu être calculés, puisque en raison du confinement du Covid, les droits ont été maintenus pour les demandeurs d'emploi qui étaient arrivés en fin de droit, ce qui était mon cas pendant le confinement. J'étais arrivée en fin de mes précédents droits, et donc mes nouveaux droits n'ont pas encore été calculés, donc là aussi c'est un peu une grande inconnue.
Et donc là, comment vous faites au quotidien? Est-ce que vous devez compter chaque euro que vous dépensez, faire très attention par rapport à cet argent que vous avez un petit peu de côté, par rapport aussi à cette incertitude sur le montant de vos prochains droits?
Alors, de manière générale, on fait de toute façon attention. Hein, on n'est pas encore à compter chaque sou, mais on fait attention parce que mon conjoint est le patron de sa propre entreprise. On ne sait pas encore trop à quelle sauce il va être mangé. Enfin, pour l'instant, a priori, ça se porte bien, mais il faut voir comment ça va évoluer. Est-ce que les affaires vont vraiment reprendre? Donc on fait de manière générale attention à ne pas dépenser trop et à outrance, mais je ne suis, comme je le disais un peu plus tôt, je ne suis pas encore des plus à plaindre, puisque je pense que j'ai une bonne indemnisation chômage, qu'on a encore le salaire de mon conjoint, donc on fait attention, mais on n'est pas dans une inquiétude immense, mais faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus.
Les petits gens se cassent les reins pour gagner 3 cacahuètes, galère pour remplir la marmite avec leurs miettes, contre la mitraille, flip pour l'avenir de la marmaille, Sky les miches, et ça échauffe en rêvant de maille, mec c'est la serbe, et tout le monde s'en bat les steaks, chacun sa petite popote, si j'ai tort tu m'arrêtes, ça me fout la gerbe, alors je te donne ma solution, c'est tout un système qui mérite ta coupe pompon, si on changeait la donne, si on renversait la vapeur, si on cassait la Paracayo, dis-moi que t'as pas peur. Faut se mettre à l'ouvrage, y a du pain sur la planche. Si on se mettait à
coronavirus, les chômeurs en souffrance, un reportage de Sophie Delpont.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Le médiateur national de Pôle emploi, Jean-Louis Walter, est l'invité de Grand Reportage. Alors évidemment, vous ne représentez ni le gouvernement, ni l'État. Je ne vous demanderai pas de répondre précisément.
Pôle emploi.
Ni de Pôle emploi, mais votre rôle c'est bien de faciliter le dialogue entre les usagers et une institution sur laquelle les demandeurs d'emploi aimeraient pouvoir s'appuyer en cette période de crise. Certains se sentent oubliés, laissés pour compte, il y a un profond sentiment d'injustice. Est-ce qui vous paraît légitime? Qu'est-ce que vous auriez spontanément envie de leur dire à ces chômeurs?
D'abord, permettez-moi de souligner le reportage intéressant de Sophie que j'ai en face de moi, parce que c'est un reportage qui retrace assez bien ce que je vis au quotidien et ce que mes collaborateurs vivent au quotidien. Merci. On a les côtés positifs, vous en avez cité, et puis on a les vraies situations difficiles. Hein, les vraies situations difficiles. Alors, le médiateur, enfin, plutôt mes collaborateurs, moi je suis l'animateur de tout ce réseau, c'est mes collaborateurs qui au quotidien sur le terrain, reçoivent en présentiel, en téléphonie, traitent les saisines qu'ils ont, essayent de trouver les ajustements qu'on doit pouvoir trouver par rapport à des situations parfois complexes et compliquées, qui, quand même, en grande partie, sont issus de difficultés de compréhension d'une réglementation plus que complexe. Plus que complexe, qui n'est pas le fruit de Pôle emploi, que Pôle emploi met en œuvre, mais qui est élaboré soit par les partenaires sociaux, soit par les services du ministre dans la dernière convention. Donc cette réglementation, qui change d'ailleurs tout le temps, ce qui fait que quand on me dit, monsieur le médiateur, mais vous avez fait des préconisations pour améliorer ça, ça et ça, et puis, ben, ça continue, vous avez toujours 30 000 saisines dans l'année, vous avez toujours autant de... Je dis oui, parce que mes préconisations, parce que on m'écoute quand même un peu, à l'inverse de ce que certains peuvent penser, dans les prérogatives que j'ai aucun pouvoir de décision, mais j'ai un pouvoir d'influence. Donc j'essaye de faire passer les messages, j'essaye d'expliquer. Je suis pris au sérieux, je pense, aussi bien des pouvoirs publics que de Pôle emploi. Et du coup, on prend en compte les préconisations que je fais. D'ailleurs, le législateur dans la loi me demande de faire des préconisations. Donc je suis tout à fait dans mon rôle. Et ces préconisations sont souvent mises en œuvre avec des petits décalages, mais sont mises en œuvre. Sauf comme que la réglementation, comme elle évolue, comme elle change, même tous les 2-3 ans, au détour de nouvelles conventions, de modifications de textes de loi, on remet sur le métier l'ouvrage. Et que ce qu'on avait réglé hier, il faut de nouveau faire l'approche, l'explication. Rendre au passage, je le fais régulièrement parce que très peu de gens le font, un vrai hommage aux agents de Pôle emploi. Il faut vous mettre dans la peau d'une institution où les règles changent à des vitesses exponentielles. J'ai une grande habitude, j'ai exercé beaucoup de métiers dans ma carrière professionnelle, dans le privé, dans le public, partout. Je sais combien c'est difficile d'intégrer des modifications, des changements à une vitesse accélérée, tout ça. Mais c'est parfois très très rapide et des choses très fondamentales. Et malgré tout ça, je pense qu'on fait pas trop d'erreurs. Je n'ai que 30 000 saisines dans l'année de situations très difficiles qui remontent chez moi, on essaye de les traiter. C'est sûr que, et dans ce que j'entends, il y a certainement des trous dans la raquette. Moi, je l'avoue. Moi, je peux pas être présent partout. Je peux pas régler toutes les situations. Je peux pas être présent, sachant quand même que quand on s'adresse au médiateur de Pôle emploi, le taux, entre guillemets, de réussite de la médiation et tout ça, pour l'aboutissement, la fin d'un conflit, c'est quand même aux alentours de 70% des situations. Après, il y a celles et ceux que vous n'arrivez jamais à convaincre de rien du tout. Il y a des positions fortes de blocage de Pôle emploi pour lesquelles je ne peux rien. Mais nous avons quand même un taux de réussite dans la façon de recréer du lien, de refaire confiance entre Pôle emploi et les demandeurs d'emploi, qui est quand même plutôt intéressant.
Une question de Sophie Delpont.
Oui, Jean-Louis Walter, vous parliez de trous dans la raquette. Certains dans ce reportage au début disaient tout à l'heure ce sont les grands oubliés, ces maîtres d'hôtel événementiels, ces cuisiniers événementiels qui servent à l'Élysée, à l'Assemblée nationale, dans les mariages, et qui disent qu'ils n'ont zéro, ils ont 0 euro d'indemnisation.
Oui,
depuis
c'est vrai.
Des mois.
C'est vrai.
Et ils ont essayé de nous contacter, ils disent qu'ils n'arrivent pas à vous joindre.
C'est vrai, mais c'est que les réglementations telles que les uns et les autres ont été pris en compte, la modification récente des réglementations qui nécessite plus une période de travail plus longue pour avoir ouverture des droits et tout ça, elle existe. Elle
910 heures de travail et là, obligatoire pour avoir l'indemnisation pour eux.
Voilà, mais ouais. C'est la réglementation. Là, le médiateur.
Ils n'ont pas pu le faire avant le confinement.
Oui, mais là, le médiateur peut pas faire grand chose, sinon de faire remonter. Et moi, je médiatise pas parce que je sais que dès qu'on médiatise, il y a des débats, parfois trucs. J'ai régulièrement au quotidien des échanges avec le ministère du Travail pour l'alerter sur des situations que je constate. Tout ce que vous venez d'évoquer, c'est des choses que j'ai déjà pu faire remonter et bien d'autres situations compliquées, difficiles à vivre. Et ça, c'est mon rôle de faire remonter tout ça et de faire remonter, en plus, parce que je pense qu'il faut être responsable dans cette société, c'est de préconiser des choses qui sont susceptibles d'aider à améliorer la situation. Après, le décideur politique, les partenaires sociaux, l'endroit où j'ai le plus de facilité à travailler, où quand je préconise, ça va très vite, c'est Pôle emploi. Parce que je suis à l'intérieur, parce qu'ils me connaissent, parce que on a un relationnel de haute confiance. Le plus dur, c'est un peu à l'extérieur. Les pouvoirs publics, c'est très très compliqué.
Alors vous avez quand même, puisque vous dites que vous avez quand même un pouvoir d'influence, est-ce que vous avez eu quelques victoires dont vous êtes fier, des choses que vous avez obtenues des pouvoirs publics?
Je sais pas si le terme de victoire est adapté. Moi, je suis pas Zorro, vous savez, je suis un modeste médiateur. Je fais partie de ceux, pour rassurer le monsieur de tout à l'heure, qui à 60 ans a changé complètement d'activité. Moi, j'ai plusieurs fois de ma vie changé complètement d'activité professionnelle. Je suis sorti de l'industrie automobile, je suis rentré dans la fonction publique hospitalière. Je suis sorti de la fonction publique hospitalière, je suis rentré à l'inspection générale des affaires sociales, je suis allé à Pôle emploi et depuis l'année dernière, je suis certifié médiateur professionnel.
Et à 70 ans, vous êtes toujours sur le pont, alors que lui, à 50 ans, il a l'impression que...
J'en ai au moins pour 10-15 ans encore. Hein.
Oui.
Donc vous voyez, il faut pas abandonner comme ça, parce que la compétence, ça n'a pas de couleur de peau, la compétence, ça n'a pas de sexe, la compétence n'a pas d'âge, et les entreprises, quand elles embauchent, j'espère... Sinon, c'est des idiots. J'espère qu'elles embauchent de la compétence.
Certains pensent quand même qu'à 50 ans, ils sont morts.
Hein. Ben, ils ont tort. Alors, certains font en sorte qu'à 40 ans, déjà, ils sont morts. Hein. Mais ça, il faut s'en prendre à soi-même.
Sophie.
Alors, quelques grandes avancées. On a parlé tout à l'heure, là, une dame qui évoquait le fait qu'elle était dans l'ARE, l'allocation de remplacement de l'emploi,
Namina.
Et qu'elle touchait une certaine somme et que bientôt, elle allait toucher une autre somme. Ça s'appelle les droits rechargeables. C'est quelque chose que les partenaires sociaux ont mis en place. Une grande avancée du médiateur, c'est quand ça s'est mis en place, il y avait des grosses difficultés sur celles et ceux qui, dans le cadre du rechargement de droits, avaient des droits très minimes. Vraiment, c'était des anciens droits, mais c'était très très peu de choses et pouvaient prétendre, par rapport aux nouvelles activités, des droits beaucoup plus importants. Eh ben, c'est le médiateur de Pôle emploi qui a fait la préconisation, qui a construit un peu le dispositif des droits d'option, comme on appelle ça.
À propos
Puis après, j'en aurai plein d'autres, mais il nous faudrait la soirée.
À propos des prud'hommes, est-ce que vous diriez que ça a été une casque, ça a été une erreur fondamentale?
Oui. J'ai été pendant 15 ans conseiller prud'homme. C'est une superbe institution, d'ailleurs unique dans le monde, qui a rendu d'éminents services. Le fait de la réformer, comme elle a été réformée sur la représentation des salariés dans cette instance, comment ils sont nommés là-dedans, le fait de substituer des tas de prérogatives au conseil de prud'homme en tant que tel, je pense que ça a tué les conseils de prud'homme.
Alors, je reviens à Pôle emploi. On fait face aujourd'hui à une situation exceptionnelle. Est-ce que Pôle emploi dispose des outils adaptés pour accompagner de manière satisfaisante les demandeurs d'emploi dans cette période de crise où il y a énormément d'incertitudes, où tout est bousculé, où il peut y avoir énormément de changements brusques dans le marché de l'emploi?
Alors, c'est pas à moi de m'exprimer au nom du directeur général de Pôle emploi,
non, mais
je
bien.
Suis sur un observatoire et je vois fonctionner. Je vais déjà vous dire, en ce qui me concerne, moi, mes équipes, la médiation en Pôle emploi, c'est 87 collaborateurs. Donc, c'est des équipes tout à fait correctes. Le télétravail, on s'y est mis très vite parce que moi, je suis un manager à l'ancienne, mais j'ai déjà depuis très longtemps intégré le dispositif du télétravail. Et ça fonctionne très très bien, mes collaborateurs ont pu être très efficaces. Moi j'ai vu la façon dont Pôle emploi, et ça c'est l'observation que je peux faire sur Pôle emploi, mais sur d'autres entreprises aussi, mais j'ai vu la façon dont Pôle emploi s'est mis en ordre de marche dans une période nouvelle, dans une nouvelle façon, mais aussi parce que j'ai constaté, je suis membre de de la direction interne à Pôle emploi, donc j'ai l'occasion d'observer en interne, parce que le directeur général est un personnage assez intéressant, parce qu'il s'est anticipé, il s'est prévoir, il a une vision d'avenir assez intéressante, et je pense que c'était l'occasion de mettre tout en œuvre, et ça marche plutôt bien.
Merci Jean-Louis Walter. Coronavirus, les chômeurs en souffrance. Le grand reportage de cette semaine était signé Sophie Delpont. À la réalisation, Annie Brou et Alexandre Dang. À la technique, merci à l'équipe de la documentation d'actualité de Radio France. Réécoutez et podcastez cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.